Voilà, merci Michael pour cette introduction par la prière. Effectivement, c'est important de prier. Avant ce temps où nous ouvrons la parole, et ce matin, j'avais envie avec vous d'un temps de révision. L'année dernière, Ivan a fait lever la main aux différentes personnes qui étaient là à différents moments. L'année dernière, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais plusieurs étaient là et ont participé au groupe de maison. Et durant une bonne partie de l'année scolaire, nous avons vu les plaies d'Égypte, hein, tous ces fléaux qui se sont abattus sur l'Égypte jusqu'à ce que le peuple d'Israël sorte. Et ce matin, j'aimerais que nous ayons une vue d'ensemble, que nous révisions ce passage. Alors, ça couvre 4 chapitres dans le livre de l'Exode et on ne va pas lire ces 4 chapitres tout de suite. On ne va pas les lire, je vais juste pointer quelques extraits. Vous pouvez les relire chez vous parce que c'est un texte extrêmement riche et on a passé un bon moment l'année dernière à l'étudier. Passage par passage, pour voir toute la richesse et tout l'enseignement qu'il y avait dans ces passages. Donc, un temps de révision qui est important parce que les groupes de maison vont continuer la suite du récit, c'est bien d'avoir en tête ce qui s'est passé, mais aussi parce que c'est un récit très important. C'est intéressant l'approche d'Ivan pendant le temps de louange autour de l'histoire, et ce récit dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'histoire du salut est particulièrement important. Parce que c'est là que le peuple d'Israël est né en tant que peuple. Israël est arrivé, Israël c'était un homme, Jacob, qui a été rebaptisé par Dieu Israël, et il est venu avec ses fils, ils sont arrivés, une famille, discrètement en Égypte. Ils se sont mis dans un coin de l'Égypte où il n'y avait pas trop de monde, dans la région de Goshen. Et ils ont prospéré, ils ont grandi jusqu'à devenir un peuple en Égypte, un peuple qui a été réduit en esclavage. Et le moment où ils sortent d'Égypte, c'est vraiment la naissance de ce peuple. Ils sont rentrés comme une famille et ils ressortent comme un peuple. Et cette naissance, elle est importante quand on lit la Bible et quand on lit les psaumes en particulier. Souvent, ça fait référence à cette histoire. Souvent, on va parler des plaies d'Égypte. Souvent, on va parler de la sortie d'Égypte et de la traversée de la mer Rouge qui arrive après. Vraiment, c'est le temps de la naissance. Et c'est important de se souvenir de ça. C'est important, nous le faisons hein, dans nos cultes où on se souvient de Jésus-Christ de son sacrifice qui nous donne la vie, qui fait de nous des chrétiens, de cet acte fondateur. On a besoin de revenir aux actes fondateurs. Et celui-ci, nous y sommes liés également, parce que nous faisons partie du peuple de Dieu. Ce peuple d'Israël, aujourd'hui, les chrétiens ont été greffés dessus. Nous faisons partie du peuple de Dieu. Et cette histoire, c'est aussi la nôtre. Je le disais, c'est une famille qui est rentrée en Égypte, qui a grandi, et il est arrivé un roi, un pharaon, qui a voulu utiliser cette grande famille, ce peuple, comme des esclaves. Et ça a été dur pour eux, ils ont été utilisés pour les travaux de l'Égypte. Aujourd'hui, on aime visiter l'Égypte, on aime voir les pyramides, on aime voir le sphinx, les monuments. Derrière, il y a des hommes, il y a des humains, il y a des esclaves qui ont construit tout ça. Et donc, pour construire tout ça, là, avec la famille d'Israël, le peuple d'Israël, il y avait de la main-d'œuvre. L'esclavage a été dur, et quand le peuple, malgré l'esclavage, malgré la difficulté à continuer de grandir, le roi est même allé jusqu'à massacrer les garçons premiers-nés afin de contenir la croissance. Ce serait dommage que cette main-d'œuvre soit trop puissante, qu'il y ait trop de garçons, qu'elle puisse se rebeller. Donc, ils ont voulu les contenir en massacrant les enfants. Vraiment un temps difficile pour ce peuple. Et c'est dans ce contexte que naît Moïse. Moïse qui fait partie de ces garçons qui auraient dû être destinés à mourir, mais qui a été sauvé des eaux. On va le faire très court. Hein. Moïse a été sauvé des eaux, recueilli par la fille de Pharaon. Et quand il découvre son origine, s'enfuit. Et c'est dans le désert que Dieu l'appelle pour lui dire « Je veux que tu fasses sortir mon peuple d'Égypte. Je l'ai entendu. J'ai entendu son malheur. Il est temps pour lui de sortir. Je veux que tu le fasses sortir. » Et quand Moïse va voir le Pharaon pour lui dire « Le Seigneur te dit « Laisse sortir mon peuple », le Pharaon dit non. S'il avait dit oui, l'histoire aurait été plus courte, mais il dit non. Et du coup, il y a un bras de fer qui s'engage, non pas entre Moïse et le Pharaon, c'est important, c'est quelque chose qu'on a vu quand on a étudié les textes, mais entre Dieu et Pharaon. Moïse est le porte-parole de Dieu, et c'est Dieu qui est en dialogue avec Pharaon, « Laisse sortir mon peuple, sinon il va arriver un tas de choses mauvaises pour ton pays. » Et le Pharaon, il n'y croit pas trop. Alors, il arrive, ses plaies, sur le pays d'Égypte. Est-ce que vous connaissez les plaies? Peut-être vous vous souvenez d'une ou deux. Tout d'abord, James, comment ? L'eau changée en sang, effectivement, c'est la première plaie. L'eau du Nil est changée en sang. Je regardais sur les infos cette semaine, hein, sur mon téléphone, je voyais que dans l'Antarctique, la glace était rouge sang. Ça m'a rappelé cette plaie, l'eau changée en sang. Ça impressionne pas beaucoup le pharaon parce que le pharaon, il a des magiciens et ils sont capables de faire la même chose. Alors, le texte biblique nous dit qu'il s'entête et qu'il ne se soucie plus de cette affaire. Pourtant, son peuple galère pendant plusieurs jours à essayer de creuser pour trouver de l'eau potable, mais lui, il s'en fiche, il ne s'en soucie pas. Alors derrière, il y a une deuxième plaie, les grenouilles. Des grenouilles partout, vous imaginez ? Des grenouilles par terre, à côté de vous. Et puis, le texte nous dit jusque dans les lits, au moment d'aller se coucher, sous les draps, des grenouilles. Imaginez, on ouvre le frigo pour se faire un sandwich et des grenouilles. Des grenouilles partout. Et quand on l'étudiait en groupe de maison, dans mon groupe de maison, il y a quelqu'un qui avait fait des recherches et qui disait le problème avec les grenouilles, c'est que quelque part, elles étaient sacrées en Égypte, donc on ne pouvait pas les tuer. Elles étaient là, et on essayait de les éviter, mais on ne pouvait pas les tuer nous-mêmes. Et bon, les mages, ils arrivent de la même façon à faire venir des grenouilles. Donc, ça n'impressionne pas beaucoup le pharaon, mais quand même, ça l'embête, toutes ces grenouilles qui sont là partout, même chez lui, même dans son lit. Et il demande à Moïse de les faire partir. Et Moïse, il lui dit, vas-y, dis-moi quand, et elles partent. Tu as juste à dire quand. Et le pharaon dit « Demain, Moïse prie, et le lendemain, elles ne sont plus là. » Et le texte biblique nous dit « Voyant qu'il avait du répit, il reste obtus et il s'entête. » Alors, ça continue. Troisième plaie, les moustiques. Les moustiques qui viennent, qui se posent sur les gens, qui piquent. Et là, pour la première fois, les magiciens du pharaon n'arrive pas à reproduire cette plaie. Ils n'arrivent pas par leur magie à faire apparaître des moustiques. Et pourtant, le texte nous dit que le pharaon s'entête et qu'il n'écoute pas Moïse et le Seigneur. J'avais préparé un PowerPoint, ce serait dommage de ne pas le faire. Et ouais, ben voilà, je ne les ai pas mis dans l'ordre, donc comme ça ne sert à rien. Donc du coup, ça continue. Quatrième plaie, les mouches venimeuses. Là, ça commence à être embêtant, les mouches qui viennent dessus, qui piquent, et c'est du venin, et ça commence à devenir désagréable. Et il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de différent, c'est que les mouches sont là, dans tout le pays, sauf dans le pays de Goshen. Dans tout le pays, sauf sur la région où est installé le peuple d'Israël. Et Dieu dit bien, c'est pour montrer qu'il y a une différence entre mon peuple et les autres peuples. Que fait le Pharaon ? Je vous le donne en mille. Il reste obtus. Il reste obtus, toujours sur son idée. Alors, une nouvelle plaie arrive. L'épidémie parmi le bétail, la peste des animaux, du bétail, voilà, c'est traduit différemment, mais le résultat est le même. Les animaux meurent dans les élevages, sauf dans les troupeaux des Israélites. Et là, le pharaon qui réfléchit quand même, il se renseigne. Il envoie ses serviteurs dans le pays de Goshen, parce qu'il y a des doutes, et on lui dit que les animaux d'Israélites n'ont pas été touchés. Mais il reste obtus, il continue de s'entêter, il refuse de changer et de laisser partir ce peuple. Alors, une nouvelle plaie arrive, James, les ulcères purulents. Sur la peau de tous les Égyptiens, des furoncles qui apparaissent. Et le texte biblique nous dit, y compris sur les mages qui ne pouvaient plus se présenter devant le Pharaon tellement ils en étaient couverts, même leur magie ne les protège pas de la main de Dieu. Et le Pharaon, le texte biblique ne nous dit pas que le Pharaon s'entête. Le texte biblique à cet endroit change. Le texte biblique nous dit que le Seigneur fit en sorte qu'il s'entête. Le résultat est le même. Une nouvelle plaie arrive, la grêle. Et cette fois, on passe à la vitesse supérieure, parce que avant la grêle, Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, avertit, cette fois, tous mes fléaux vont se déchaîner contre toi. Cette fois, ça va être quelque chose, tu n'as jamais vu pareil. Et effectivement, dans le texte biblique, on nous le dit, il n'y avait jamais eu d'intempérie de cette façon. On avait l'impression qu'il tombait du ciel, du feu mélangé à la grêle, tellement c'était violent. Et les céréales qui sont là, qui sont en train de se développer, sont hachées. Les récoltes futures sont hypothéquées. Et là, les gens de la cour, même de la cour du Pharaon, ceux qui sont là, commencent à prendre les choses au sérieux. Et ceux qui écoutent Moïse avec attention ont pris le soin de rentrer leurs animaux, de faire rentrer leurs serviteurs pour ne pas qu'ils se prennent ça sur la tête. Et le Pharaon, quand il voit ça, il fait venir Moïse et dit « J'ai péché et fais partir la grêle. » Et Moïse prie, la grêle arrête, mais le Pharaon reste obtus. Une fois que la grêle est finie, voyant que ça avait cessé, il reste pareil, sur la même ligne. Alors, une nouvelle plaie arrive, les sauterelles, les criquets. Et ils mangent tout le reste. Il y avait les premières céréales qui avaient été touchées par la grêle, et celles qui restent, c'est les criquets qui les mangent. L'hiver risque d'être rude, aucune récolte. Moïse demande, « Jusqu'à quand refuseras-tu d'écouter Dieu ? » Et même les gens de la cour du Pharaon lui demandent, jusqu'à quand refuseras-tu? Alors, le Pharaon commence à négocier. Vous pouvez partir, mais seulement les hommes, les familles restent. Bah oui, hein, vous partez, et puis comme j'ai les familles un peu en otage, vous reviendrez après. Il ne veut pas laisser partir ses esclaves. Mais Moïse dit non. Du coup, la plaie s'abat. Et à la fin, ça reste pareil. Il ne les laisse pas partir. Alors, neuvième plaie, les ténèbres. Des ténèbres, la Bible nous dit qu'il n'avait jamais fait aussi noir. On voit nulle part. On parle de brouillard à couper au couteau. Là, a priori, c'était des ténèbres à couper au couteau. Et encore partout, sauf dans le pays de Goshen. Mais le Seigneur fit en sorte qu'il s'entête et rien ne change. Rien ne change et quand il voit Moïse, il lui dit « C'est fini, je ne veux plus te voir, ne reparais plus devant moi. » Alors lui, Moïse lui répond « Très bien, je ne reparaîtrai plus devant toi. » Et la dernière plaie arrive. Tous les enfants d'Égypte vont mourir, tous les enfants, tous les premiers-nés, les garçons premiers-nés d'Égypte vont mourir, depuis ton fils jusqu'au fils de ton esclave, jusqu'au premier-né du bétail, tous vont mourir. Et il part, le texte nous dit que Moïse part très en colère. Et nous nous sommes arrêtés là, dans notre lecture, en groupe de maison, à cette annonce de la dernière plaie. Et malheureusement, nous savons ce qui s'est passé, de ce qu'elle s'est réalisé. Ce texte, ce passage, est sans doute pour moi le texte, un des textes en tout cas les plus tristes de la Bible. Parce qu'on voit l'enfermement d'un homme averti, et averti plusieurs fois, réaverti. Il y a 10 plaies comme ça. Et malgré ça, il refuse de changer. Et ça a des conséquences sur lui, mais ça a des conséquences autour de lui. Et parce que c'est un homme puissant, parce que c'est le roi, cet autour de lui est immense. Ça a des conséquences sur tout son peuple. Et je trouve ce récit désespérant. Désespérant de voir cette incapacité à changer malgré des signes miraculeux tellement extraordinaires. Peut-être trouvez-vous ce texte, ce récit dérangeant. C'est dérangeant de voir un tel déchaînement de violence de la part de Dieu. Est-ce que Dieu a le droit, est-ce que c'est normal de faire autant de mal à tout un peuple, à tout un pays? C'est une question qu'on se pose parfois et en même temps, en préparant cette prédication, je réfléchissais à tous ces films qu'on voit dans lesquels il y a une injustice qui est commise, un gros méchant qui attaque un pays ou des gens qui font du mal, qui enlèvent des innocents pour les violer, pour les tuer. Et tout le déroulement du film va être la vengeance du héros. Et on apprécie de voir ces films avec cette vengeance, avec la justice qui est faite, de voir que les méchants sont punis, que ceux qui ont agi dans le pur mal sont frappés. Et là, on avait, avec le pharaon, quelqu'un de particulièrement méchant dans la façon dont il exploite un peuple en esclave, dont il les réprime, dont il les massacre. Quand Moïse vient, il les frappe encore plus durement au début, de leur dire « Vous allez continuer à travailler, mais on vous fournira plus les briques, vous les fabriquerez vous-même et vous avez intérêt à en faire autant. » Vraiment quelqu'un de cruel. Et on voit dans ce texte que la justice est la plus forte. Mais ce texte est dérangeant, par un aspect en tout cas. C'est cette notion de ce que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Et ça, je crois que c'est une difficulté, même pour le lecteur croyant, de voir que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que finalement, le Pharaon n'avait aucune chance de changer? Si Dieu vient toucher son cœur et l'oriente de cette façon-là, le Pharaon avait-il une chance de changer? Et cette question, on se la pose avec le Pharaon et on peut se la poser encore aujourd'hui. L'apôtre Paul nous dit que nous sommes élus dès avant la fondation du monde pour être réconciliés avec Dieu. Est-ce que ça veut dire que certains sont élus dans le sens inverse, choisis pour ne pas être réconciliés avec Dieu? Une question difficile. J'aimerais revenir pour y répondre à notre texte, à ce passage, à ces chapitres de l'Exode. Et quand on regarde le texte, et j'essayais de le rendre en vous le racontant, on se rend compte que le texte est ambigu au sujet de l'endurcissement de Pharaon. Un coup, le texte dit que le Pharaon s'endurcit, un coup, il dit que c'est Dieu qui endurcit son cœur. Et si on regarde bien, on verra même qu'au début, sur les premières plaies, on verra que c'est le Pharaon qui endurcit son cœur et à un moment que Dieu l'endurcit. J'ai l'impression, en regardant le texte, de voir le Pharaon qui s'enfonce, qui s'enferme et qui se met dans une situation où il ne peut plus venir en arrière, plus revenir en arrière. Et j'ai l'impression de voir là un mécanisme très humain. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, si vous l'avez constaté. Quand on est dans une situation délicate et qu'on s'en tire par un mensonge, généralement, quand on revient dessus, on va être obligé de mentir pour justifier son premier mensonge. Et quand on creuse plus loin, eh ben on va être encore obligé de mentir pour conserver la face par rapport à cette situation et on s'enferme dans le mensonge pour sauver la face. Quelque part, j'ai l'impression de voir le Pharaon qui s'enfonce ainsi. Mais pourtant, le texte dit très clairement que c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Et derrière même ces premières plaies où le texte dit que le cœur de Pharaon s'endurcit, que le Pharaon endurcit son cœur, on peut se dire, mais Dieu a dit que c'était lui qui agissait. Même si Dieu endurcit le cœur de Pharaon, je vois que Dieu lui laisse une chance, et même plusieurs chances. Au tout début, avant de commencer tout ça, quand Dieu dit à Moïse ce qui va se passer, il lui dit « Je t'ai donné le pouvoir de faire des choses extraordinaires. Quand tu seras retourné en Égypte, n'oublie pas de les faire devant le roi de ce pays. Mais moi, je fermerai son cœur et il ne laissera pas partir les Israélites. Alors tu lui diras « Voici ce que moi, le Seigneur, je t'annonce. Le peuple d'Israël est mon fils aîné. Je t'ai commandé de le laisser partir pour me servir, mais tu refuses. C'est pourquoi je vais faire mourir ton fils aîné. » Voilà ce que Moïse a dit tout au début à Pharaon, de la part de Dieu. « Laisse sortir mon fils, sinon c'est ton fils qui sera tué. » Et j'ai l'impression que ce qui suit, le programme, il est annoncé dès le début, et ce qui suit, c'est les avertissements de Dieu. Trois avertissements. Trois avertissements parce que les plaies peuvent être groupées par série de trois. La première série, le Nil couleur sang, les grenouilles et les moustiques. La deuxième, les mouches, la peste des animaux et les ulcères. La troisième, grêle, criquet et ténèbres. Et on peut les regrouper comme ça par trois parce qu'il y a un rythme qui vient. Sur la première de chaque série, Dieu dit à Moïse, au matin, va rencontrer, va te poster pour là où passe le Pharaon pour lui dire. Pour la deuxième, il dit, va te trouver et va l'avertir. Et pour la troisième, il dit rien. Et ça revient comme ça en cycle de trois. Et j'ai l'impression que Dieu avait annoncé le programme. Laisse partir mon fils, sinon je vais frapper le tien. Et qu'il y a trois avertissements. Trois triples avertissements. Et au début, c'est des signes miraculeux qui sont ennuyeux, mais qui ne font pas trop de mal. Et puis après, on commence à être touché. Les mouches venimeuses qui piquent, le bétail qui meurt, les ulcères, la maladie sur soi. Et puis après, le troisième avertissement, c'est carrément ce qui détruit les récoltes, ce qui touche au plus profond, qui va laisser des traces durablement. Trois avertissements comme ça. Même si Dieu endurcit le cœur du Pharaon, il prend quand même le temps de l'avertir, de lui donner l'occasion de changer. À chaque fois, il avait la possibilité de dire oui. Et c'est dramatique de voir qu'il ne fait pas. Quelle explication est-ce qu'on peut donner à cette affirmation de la Bible de ce que Dieu endurcit le cœur de Pharaon ? Il y a deux explications. Une première explication théologique et une deuxième action psychologique. La première explication théologique, on la voit dans Romains. Paul explique, l'Écriture dit au Pharaon, « Je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit annoncé par toute la terre. Ainsi donc, il a compassion de qui il veut, il fait s'obstiner qui il veut. » Si on est choqué de ce que Dieu endurcit le cœur de Pharaon, ce texte-là ne nous aide pas. Dans ce texte-là, Paul dit que Dieu a fait le choix d'endurcir le cœur de Pharaon pour montrer sa puissance. Pour montrer que même le cœur le plus endurci de l'homme le plus puissant ne l'arrête pas pour faire ce qu'il a décidé. Et le Pharaon est là comme un exemple de ce que Dieu fait ce qu'il veut. Et même l'adversité, même l'adversaire fait partie de son plan. Et si vous réfléchissez, ça ne se voit pas que là, dans la Bible. La Bible affirme que les empereurs qui sont venus, qui ont dévasté Jérusalem, le faisaient au nom du Seigneur. Si on pense à Job, on se souvient de ce que le diable n'agit pas contre Job sans que Dieu ne lui en donne l'accord. Dieu contrôle toute chose, même ce qui se passe de mauvais, et c'est pour sa gloire. Ce n'est pas facile de comprendre. Et peut-être on a envie de trouver que Dieu est injuste de procéder ainsi. Mais il y a une deuxième raison, une raison que j'appelle psychologique, enfin que j'appelle psychologique. Je prends ce terme à Antoine Nuis, dont je vais lire une citation dans l'ouvrage qu'il consacre à Moïse. Le Pharaon s'est enfoncé dans sa mauvaise voie et il lui était de plus en plus difficile de revenir sur sa décision. Il s'est trouvé enfermé dans son propre refus, comme si une force extérieure l'empêchait d'accéder à la demande de Moïse. La logique de notre humanité veut que plus un homme s'enferme dans le mal, plus il lui est difficile de revenir en arrière. C'est comme si son cœur s'endurcissait et l'empêchait de poser un acte de liberté. le mal est une autorité. Au sens biblique du terme, il prend progressivement possession du sujet qui s'y adonne et l'enferme dans sa logique. L'enchaînement est le suivant. La première fois que nous faisons quelque chose de mal, nous sommes culpabilisés. La deuxième fois, nous commençons à nous chercher des excuses. Et la troisième fois, notre raisonnement est affecté et nous déclarons qu'en ce qui nous concerne, le mal n'est pas le mal. Je crois que cette analyse d'Antoine Nuis est fort juste. Quand on s'engage dans une mauvaise voie, la première fois, on se sent un peu coupable, mais quand on y retourne, plus on y retourne, plus on a d'assurance et plus on s'y installe. Et plus on avance sur la voie du péché, plus on a du mal à la quitter. C'est une spirale qui nous entraîne vers le bas. Alors, on peut trouver Dieu injuste. Mais je crois que si on se sert de ce texte, de ce passage pour juger Dieu, on se plante. Je pense que nous avons plutôt intérêt à recevoir ce passage pour nous laisser interpeller nous-mêmes. Où est-ce que j'en suis ? Est-ce que je ne suis pas en train de me laisser aspirer par une spirale ? Une spirale qui m'emmène de plus en plus bas, qui m'empêche de décider librement, qui m'enferme. Et j'aimerais parler de cette invitation que Dieu nous donne, cette invitation à nous tourner vers lui, à le reconnaître pour Seigneur, en d'autres termes, à devenir chrétien. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Est-ce que je suis prêt à reconnaître que je suis sur une mauvaise voie ? Ou est-ce que je suis dans cette spirale qui me dit « c'est pas grave ». Il y a des gens qui font pire de moi. Non, ce n'est pas vraiment le mal, ce n'est pas vraiment un péché, je suis clean. Comme Moïse avec le Pharaon a répété et répété, la Bible nous le répète. L'homme est pécheur, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et elle ajoute, le salaire du péché, c'est la mort. Comme le Pharaon, dans sa spirale, se dirige vers la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Comme le Pharaon pouvait dire « Oui, j'arrête, je capitule, Dieu est plus grand que moi, je fais ce qu'il me demande. » Nous avons la possibilité de dire « Oui, je suis pécheur et j'ai besoin de Jésus-Christ pour entrer dans la vie éternelle. » Je crois que le mécanisme est le même et qu'on peut se trouver dans une spirale à s'enfoncer, à dire non, 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 non. Ou alors à répondre oui par cet acte de liberté, à s'humilier comme le Pharaon aurait dû s'humilier. C'est une première situation, mais je crois que ce n'est pas la seule. Je pense que nous aurions tort, si nous sommes chrétiens, si nous avons accepté de suivre Jésus, d'en faire notre Seigneur, nous aurions tort de penser que l'avertissement des 10 plaies et du Pharaon ne nous concerne plus. Nous aussi, nous pouvons être confrontés au péché dans nos vies. Et ce péché qui nous ronge et qui nous enferme et qui nous empêche de vivre pleinement la vie féconde, la vie riche que Dieu a prévue pour nous. Je pense à ces péchés qu'on tolère dans nos vies et pour lesquels, exactement comme le dit Antoine Nouis, la première fois on se sent coupable et puis après on se trouve des justifications et puis après on dit mais finalement c'est pas mal. Il y en a plein. Je pense par exemple à la pornographie, auquel on peut y aller et au début on va se sentir mal et puis petit à petit on peut s'y installer, prendre une place dans nos vies et le justifier et dire il n'y a pas de problème. Je pense à la critique qu'on peut avoir les uns envers les autres. Au début, on peut se justifier. Oui, non, mais il a vraiment fait quelque chose et c'est important de dire la vérité. Et puis, petit à petit, ça devient une habitude et petit à petit, on s'enfonce et on devient une habitude de critiquer son frère, sa sœur. Même quand on est chrétien, on peut s'enfoncer ainsi dans le péché. La Bible est claire. Elle nous dit de nous en détourner. Mais si on s'enfonce dans cette spirale, on va se dire, ce texte ne décrit pas exactement ma situation, je ne suis pas exactement dedans, ce n'est pas vraiment le mal. Cette histoire du Pharaon est dramatique. Mais elle nous concerne. Ne croyons pas que parce qu'elle est spectaculaire, elle est éloignée de nous. Elle vient parler de qui nous sommes, très précisément en tant qu'humains. Et je crois que le mécanisme qui a enfermé le Pharaon dans son refus, il est prêt à bondir sur nous de la même façon. Et le chemin pour sortir, il est unique. C'est celui que n'a pas pris le Pharaon. C'est celui de s'humilier, de dire ouais. Oui, je pensais que je pouvais m'en sortir, je pensais que je pouvais me justifier, je pensais que... Mais en fait, non. J'avais tort. Je veux te suivre, Seigneur, je veux te suivre, Jésus. Peut-être vous trouvez que cette prédication est peu réjouissante. Et en même temps, il y a tellement de joie à être pardonné par le Seigneur. Tellement de joie à pouvoir avancer avec lui et pouvoir bénéficier de la vie riche qu'il propose. Et j'aimerais... pour terminer, mettre cette promesse qui est connue, que Dieu fait à son peuple avant qu'il rentre dans le pays promis. Et qui dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. Choisis la vie. Le Seigneur nous le redit aujourd'hui. Nous avons la possibilité de lui répondre oui. Ne nous laissons pas enfermer. Amen.